Bonjour. J'aimerais vous présenter quelques fondements de notre foi, la foi chrétienne, la foi en Christ. Car vous pouvez être né dans un milieu chrétien, dans un pays où il y a des églises, connaître des chrétiens même, sans vous douter de tout ce qu'il y a d'intéressant et de pertinent dans la Bible. Ce n'est pas une question d'avoir une religion ou d'ajouter une activité religieuse à une vie déjà remplie, ni de simplement ajouter un vernis religieux à votre vie, mais de connaître Dieu par la foi. J'aimerais évoquer quatre choses qui sont absolument fondamentales à notre foi dans le message de la Bible. D'abord, un sens à l'histoire, un Dieu créateur et souverain. Dès le début de la Bible, Dieu est présenté comme celui qui crée tout. Dieu a créé les choses pour une raison. Ça répond à notre quête d'un sens à la vie. On peut lire dans un passage dans Actes chapitre 17, versets 24 à 26, qui dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et la limite de leur lieu d'habitation. Vous avez entendu là comment est Dieu? Un Dieu qui n'habite pas dans les maisons, les temples, parce qu'il est plus grand que cela. Dieu a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve. Il est présenté comme Seigneur, maître de tout ce qu'il a fait. Et regardez son implication dans notre vie. Il nous donne le souffle. Il fixe le temps de notre vie et où nous allons habiter. Un chrétien donc croit que la vie a un sens. Parce que Dieu est souverain et créateur, le but de l'existence est de le connaître et de vivre pour lui. Mais croire que Dieu est souverain, ça veut aussi dire que tout ne sera pas facile pour un chrétien, bien entendu, ou forcément agréable, mais que Dieu reste le maître des circonstances de notre vie. On pourrait discuter de comment Dieu a créé le monde, mais ce n'est pas le but. Ce qui est souligné dans la Bible, c'est plus le fait que le monde vient de Dieu et lui appartient. Deuxièmement, la Bible déclare qu'il y a un problème, le problème réel, le danger de la rébellion. On le sait, n'est-ce pas? On le constate, il y a un malaise évident, tant dans la société que chez l'individu. Et malgré tous les efforts de civilisation et d'éducation, il y a encore des actes inexcusables. Vous prendrez peut-être comme position que l'humanité en général est bonne, qu'elle est sage et juste, et qu'il n'y a qu'une minorité qui se livre à des actes extrêmes parce qu'ils sont exploités ou malades ou corrompus. C'est l'idée que tout le monde est plus ou moins bien sauf les extrémistes. Et les extrémistes vont être, selon votre point de vue, les religieux ou les athées ou toute personne qui n'est pas comme vous et qui a rebellé contre la majorité. Mais la Bible présente un autre point de vue. Au lieu de voir tous les humains comme étant bons, la Bible annonce que toute l'humanité est injuste. Parce que littéralement tout le monde est en rébellion contre Dieu. Voici ce que Romains chapitre 3 dit comme verdict sur l'humanité. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. C'est important. Quelqu'un dira, mais moi je ne suis pas rebelle contre Dieu, je ne crois même pas en Dieu. Mais en fait vous savez comme moi qu'on peut perdre une amitié, on peut perdre une relation de deux manières, soit par une grosse dispute, soit par un refroidissement graduel. De même avec Dieu. Peut-être que vous avez eu une grosse dispute avec Dieu et vous avez dit ouvertement « Je ne veux pas te connaître, je ne veux plus entendre parler de toi. » Mais peut-être que simplement vous vivez un refroidissement, une indifférence. On ne cherche pas à le connaître. Et le résultat est le même. Nous n'avons pas la bonne relation avec Dieu. Mais nous devenons rebelles, hostiles contre lui. Et de son point de vue, il nous considère alors comme pas intelligents, malgré nos diplômes, malgré nos études, et pas justes, malgré les bonnes œuvres que nous pourrions accomplir. Le fond du problème est là, notre attitude envers lui, qui lui déplaît, et l'hostilité qui existe entre nous et lui. Je veux aussi dire qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui se croit meilleur que les autres. Les chrétiens, nous reconnaissons que nous sommes comme les autres, justement. Pas des personnes de bien. Alors, si vous êtes scientifique de nature, vous aimez les théories qui peuvent être testées. Vous voulez observer si les phénomènes sont en accord avec les théories. Ben voici justement une théorie qui peut être observée. Écoutez cette citation de Jésus. C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. C'est Jésus qui a dit ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Alors même si vous ne comprenez pas toutes les expressions qu'il a utilisées, vous pouvez observer qu'ils sont réellement présents dans le cœur des autres et dans votre cœur. Une chrétienne, un chrétien, sait que c'est vrai dans son cas, mais ça apporte un problème. La Bible dit que même si c'est universel, notre mal n'est pas acceptable. Dieu demande la perfection. Dieu est le juste juge de son monde et de toute personne qu'il a créée. Et après la mort vient le jugement. La Bible, et Jésus en particulier, nous avertit que Dieu n'acceptera pas tel quel un homme ou une femme qui a vécu toute sa vie comme elle le sent. Il n'y a pas de juste. Mais Dieu est tellement juste qu'il doit punir. Et il doit exclure tous ceux qui sont injustes. Nous méritons d'être punis. Et cela éternellement. Mais la Bible annonce aussi un miracle. Troisième chose, une solution remarquable, la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La vraie solution ne vient pas de nous, elle ne vient pas des Nations Unies, elle ne vient pas non plus de nos efforts pour plaire à Dieu. La solution vient de Dieu. Dieu lui-même qui vient s'incarner dans un homme, un personnage humain historique. Cet homme, Jésus de Nazareth du 1er siècle, a démontré toutes les capacités de Dieu. Il guérit, il fit des miracles. Il enseigna avec sagesse. Il a montré de l'amour. Il est saint, il est bienveillant. Il connaît les cœurs. Et il a eu tellement d'impact qu'on en parle encore aujourd'hui. Sa vie a affecté beaucoup de monde. Mais encore plus que sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors tout le monde meurt. Donc pourquoi la mort de Jésus fut-elle si impressionnante ? Ce n'est pas seulement parce qu'il était Dieu, il était quelqu'un de différent qu'un simple homme, mais aussi parce que la mort de Jésus a accompli quelque chose. La mort de Jésus fut unique, parce qu'il mourut pour prendre la punition que les autres méritaient. Il prit la sentence de mort pour d'autres qui avaient fait le mal. Voici comment le dit l'apôtre Pierre dans une de ses lettres, 1 Pierre 3:18, dit « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il meurt à la place des injustes. Voilà quelque chose de remarquable. Voilà un amour réellement impressionnant. Au lieu de permettre que tous soient condamnés, Dieu a décidé de payer un prix extraordinaire pour le pardon d'un vaste nombre de Juifs, d'Européens, d'Africains, d'Asiatiques et d'autres encore. Donc nous remercions Dieu qu'il a voulu, par amour pour nous, se donner dans la personne de Jésus. Et puis lorsque Jésus ressuscita, ce n'était pas simplement un grand miracle, mais c'était pour montrer que maintenant les pouvoirs du mal et de la mort étaient brisés, qu'il nous est possible de vivre en bonne relation avec Dieu, et pour toujours. Qui reçoit cette solution miraculeuse? Est-elle donnée à tous? Non. Là, il faut bien regarder la Bible. On peut lire dans l'évangile de Jean. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ne passez pas à côté de la grande différence. Voyez-vous, la différence principale, la plus grande dans le monde, n'est pas entre les hommes et les femmes, ou les noirs et les blancs, ou les jeunes et les vieux, mais entre ceux qui croient en Jésus et qui ne sont pas jugés ou condamnés, et ceux qui ne croient pas en Jésus, et qui seront condamnés. Si vous avez même un soupçon que ça pourrait être vrai, il vaut la peine que vous regardiez cela de très près, que vous preniez le temps pour l'étudier, pour vous renseigner. C'est vraiment important. La quatrième chose que je veux dire brièvement, c'est que nous avons une vie chrétienne à vivre, une vie engagée à 100% par la foi en Jésus. C'est comme ça que nous vivons en tant que chrétiens. La foi, vous savez, c'est croire des choses, mais c'est surtout mettre sa confiance prendre une personne. Ce n'est pas comme un saut dans le vide, mais plus comme un petit enfant qui saute dans les bras de son père à la piscine, qui fait confiance à son père quand il se lance. On met notre confiance en Dieu, qui nous pardonnera, qui mettra nos fautes sur le compte de son Fils et qu'il nous comptera comme juste. Dieu vous aime d'un amour profond et en tant que créateur, Dieu vous connaît intimement. Il sait tout ce que vous avez fait. Et en tant que sauveur, il est capable de vous pardonner, de changer votre vie et de vous accorder la vie éternelle. Je pourrais parler longuement de ce que la vie éternelle, la vie chrétienne, mais je vais me retenir. Sachez simplement que la vie chrétienne vaut le coup. Peut-être qu'une histoire ou une illustration peut aider. Quand quelqu'un décide de se marier, il y a toujours une perte et une récompense. Imaginez par exemple une femme qui décide d'épouser un Chinois. Elle pourrait faire face à de nombreux changements. Elle perdrait ses racines belges en allant habiter là-bas, en Chine. Son alimentation va changer peut-être, ou sa façon de penser, ses habitudes. Mais elle aurait la récompense d'abord d'être avec quelqu'un qui l'aime, qui veut être avec elle fidèlement. Elle gagnerait un nouveau mode de vie et de nouvelles expériences et un avenir différent. Des pertes, mais aussi des récompenses. Et la vie chrétienne d'autant plus. Oui, bien sûr, il y a des petites pertes. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des fréquentations peut-être qu'on n'a pas. Mais il y a de grands avantages d'être accepté et dirigé et sauvé par Dieu. Ça vaut la peine de prendre cet engagement. Les chrétiens diront donc, ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Comme Paul le dit dans Galates 2, verset 20. Voilà les implications dans la pratique. Devenir chrétien, c'est bien plus qu'aller à l'église, c'est vivre une vie où on suit le Seigneur Jésus, en relation éternelle avec Dieu. On le connaît personnellement. Et c'est le plus grand changement de ma vie. Ma foi au Fils de Dieu a changé tout. Et j'espère que vous vivrez vous aussi ce changement un jour. Voilà le résumé de la foi, l'Évangile. Un sens à l'histoire, un Dieu créateur et souverain du début à la fin. Un problème réel, le danger de la rébellion contre Dieu, notre indifférence qui mène à la mort éternelle. Une solution remarquable, la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui paye un prix remarquable pour sauver tous ceux qui se tourneront vers lui. Et puis une vie engagée à 100% par la foi en Jésus. On ne vit plus comme avant, on s'engage en comptant sur Jésus-Christ. Merci pour votre écoute, ceci n'était qu'une entrée en matière, le sujet est vaste et à approfondir. J'espère que vous pourrez venir un jour nous voir à la rue du Moniteur. Vous serez les bienvenus, même si vous n'êtes pas croyant ou pratiquant. Vous pourrez rencontrer des personnes qui sont croyantes et pratiquantes et qui veulent honorer celui qui a changé notre vie, le Seigneur Jésus-Christ.